Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Le tour du monde de Hyacinthe de Bougainville en 1824. Pendant 25 années, la France a interrompu les vastes expéditions maritimes chères à l'Ancien Régime. En effet, de 1789 à 1815, les différentes phases de la Révolution, puis celles du Consulat et de l'Empire, les guerres de coalition européenne, les affrontements maritimes avec les Britanniques, le blocus continental, ont conduit à une absence océanique à peu près totale. Il est vrai qu'après Aboukir, puis Trafalgar et Copenhague, la marine française est bien mal en point. Et le commerce maritime a été très handicapé par le blocus. Bonaparte fut un terrien européen, avec peu de soucis colonial ou exploratoires de la planète, même s'il rêvait de l'Orient, il n'a pas eu le temps de s'occuper de la mer. Les Bourbons, restaurés en 1815, souhaitent reprendre la tradition des missions maritimes et les voyages d'exploration. Mais il est bien tard. En 25 années, les Britanniques ont mis à profit l'absence de concurrence sérieuse sur les océans. Ce début du XIXe siècle constitue le socle de l'édification de la puissance maritime, commerciale, puis coloniale de la Grande-Bretagne, qui s'imposera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Hyacinthe de Bougainville est le fils unique du célèbre Louis-Antoine, né et mort à Paris en 1729-1811, membre originaire de l'Institut, inhumé au Panthéon, navigateur, érudit, mathématicien, mécène d'horticulture tropicale, dont le voyage autour du monde avec la boudeuse et la flûte de 1766 à 1769 fut un événement considérable, bien que le royaume de France arrivât bien tard dans les circumnavigations. Hyacinthe est né à Brest en 1781 et il continue avec brio la tradition maritime de sa famille. Éduqué par une mère érudite, il intègre facilement Polytechnique en 1798, qu'il abandonne en dernière année, c'est un choix très osé pour l'époque, afin de rejoindre en 1800 la seule expédition maritime de quelque ampleur sous le consulat, celle de l'ombrageux Nicolas Baudin. Il repart en 1803 avec Hamelin, puis capitaine de frégate en 1811 après de multiples navigations, baron d'Empire qu'il sert avec zèle, il change de maître sans état d'âme à la Restauration. Louis XVIII le choisit en 1822 pour diriger une expédition autour du monde afin de renouer les liens diplomatiques et éventuellement commerciaux dans des régions négligées jusqu'alors ou abandonnées aux Britanniques. La Thétis, appareil de Brest en mars 1824, pour un tour du monde qui durera 27 mois, rejointe en mai à l'île Bourbon par l'Espérance qui vient de Rio de Janeiro. Le voyage est fortement centré sur l'Extrême-Orient et la zone Pacifique. C'est le troisième voyage de Hyacinthe dans cette région où le gouvernement de Louis XVIII espère trouver des marchés avantageux. La Thétis n'embarque pas de personnel scientifique. Il s'agit de, je cite, « se montrer en mer de Chine et dans le Pacifique », de glaner un maximum d'informations, d'établir des contacts, de rencontrer les quelques négociants français de ces régions, les princes locaux, en vue de relations futures. Toutefois, Hyacinthe se fera naturaliste autodidacte en compagnie de quelques-uns de ses officiers afin de rapporter à Cuvier une moisson de spécimens en tout genre. Ce dernier, d'ailleurs, le remerciera dans une lettre extrêmement chaleureuse. Après la traditionnelle escale à Pondichéry en Inde du Sud, les deux frégates, passe au large des Nicobars et arrive à Pulo Penang, l'île de Penang, que les Anglais n'ont pas encore baptisée île du Prince de Galles, avant de descendre le long de la péninsule malaise, par Malacca jusqu'à Singapour. À Penang, pour une escale de 12 jours, c'est l'éblouissement. Ce comptoir naissant, dirigé par l'infatigable Light, vient de se doter d'un fort en pierre, baptisé Fort Cornwallis en l'honneur du gouverneur de Birmanie, avec une garnison d'un millier d'hommes. À mi-chemin entre la Chine et l'Inde, au fond du golfe du Bengale, l'île est très abritée, a un climat salubre et elle est un lieu de transit idéal, rassemblant des populations très variées. Babel linguistique et religieuse, Penang compte environ 37 000 habitants à l'époque, maintenant elle en compte plus d'un million et demi, et elle commence à se doter d'entrepôts et de villas somptueuses, tant dans le style chinois qu'occidental. Le style anglo-indien trouve ici son plein épanouissement. Penang est un port franc et jusqu'à 300 navires en tout genre s'ancrent dans la baie pour trafiquer des épices, des huiles, des étoffes, des porcelaines et aussi l'opium et le bétel. Bougainville et son équipage sont saisis d'admiration. À mi-chemin de la péninsule, Malacca fait triste figure. Son heure est passée. Les Hollandais ont fini par céder la place aux Britanniques en échange d'une totale souveraineté à Sumatra. Mais les luttes farouches pour garder cette enclave européenne, assez malsaine, il faut le dire, sur un estuaire marécageux, ont ruiné ce comptoir. La malaria y sévit, les entrepôts et la ville autrefois prospère s'enfoncent dans la somnolence, écrit Hyacinthe. Après avoir refait de l'eau douce, la Tétis et l'Espérance, entre alors dans le détroit de Singapour, où elle mouille le 30 août 1824. Là aussi, c'est l'admiration. En 25 ans, les Britanniques, en toute tranquillité, ont posé les bases d'une suprématie administrative et commerciale incontestable. Créée en 1819 sur une inspiration de Sir Thomas Raffles, alors gouverneur de Java, qui a vu en cette île au fond d'une baie très abritée un site d'établissement idéal, Singapour, dont le tracé des rues est déjà établi, laisse Hyacinthe et son équipage pantois. Ses notes parlent d'elles-mêmes. Bien que la résidence du gouverneur Crawford soit encore une modeste maison de bois recouverte de feuillage, elle est située sur une colline, le futur Fort Canning, d'où elle embrasse toute la rade et la ville. Développée rapidement, fin 1824, Singapour compte environ 13 000 habitants, dont 150 Européens, presque tous Écossais, 8 à 9 000 Chinois et Javanais, 2 à 3 000 Malais, indolents et surtout porteurs ou domestiques, dit Hyacinthe, un millier d'Hindous et quelques métis portugais. Hyacinthe note aussi la présence d'Arméniens, très actifs, aisés. Ce sont eux en effet qui en 1835 construiront la première église en dur alors que le temple protestant est encore en planches et en bambou. Hyacinthe ajoute sur ces rives réputées encore désertes règne déjà le mouvement et les embarras d'un grand port. Le journal de Bougainville note tous les caractères qui perdurent encore aujourd'hui dans la cité-état. C'est cela qui est probablement le plus intéressant. La plupart des bâtiments sont anglais, beaucoup de jonques, chinoises et siamoises. Parmi les produits traités, il note l'importance de l'opium en provenance de l'Inde, réexpédié vers le Siam et la Cochinchine. Bientôt, la ferme d'État d'opium couvrira les deux tiers des frais de gouvernement avec ses revenus. La ville chinoise, gérée avec rigueur, offre un spectacle d'opulence. La piraterie est importante, mais note-t-il, les Malais la tiennent pour une profession des plus honorables. Ils trouvent la place peu défendue, avec à peine 300 cipayes. Elle restera ainsi jusqu'à l'attaque surprise japonaise de 1942, défendue avec à peine 700 soldats. Hyacinthe trouve d'ailleurs les Britanniques fort inconséquents, écrit-il. Pendant l'escale, le vicomte Edmond de Latoine, peintre de la Tétis, fera plusieurs dessins et aquarelles de la rade et de la ville chinoise depuis la maison du gouverneur. Ils seront publiés en 1837 à la demande de Hyacinthe de Bougainville. Les deux frégates quittent Singapour le 4 septembre pour remonter sur Manille, où un typhon démate l'Espérance, dont la réparation traîne en longueur. Finalement, la Thétis repart seule, le 12 décembre, longe les côtes de Chine jusqu'à Macao et Coloane, dont Bougainville note le dépérissement. Là aussi, son heure est passée. Il ne pousse pas jusqu'à Hong Kong, pourtant toute proche, ni Canton. Peut-être l'imposante forteresse tartare lui inspire-t-elle de la crainte. Plus simplement, il a des ordres qu'il suit à la lettre, ne provoquer aucun incident fâcheux. Le 8 janvier 1825, la Thétis descend vers la Nam et le golfe du Tonkin, où l'Espérance la rejoint enfin. L'empereur de Cochinchine reçoit somptueusement les deux frégates françaises, dont l'escale se prolonge jusqu'en février pour faire route au sud, malgré les pirates et les difficultés de navigation. Ils font contourner en effet des centaines d'îles et îlots indonésiens, Madukka, Surabaya, où Bougainville apprend le décès de Louis XVIII, survenu le 16 septembre précédent. À l'issue d'un office religieux, il fait prendre le deuil à ses équipages. L'accueil du sultan de Madura est somptueux. Puis, deux brèves escales à Lombok et Sumbawa permettent de faire de l'eau et des vivres frais avant d'entamer la descente vers l'Australie qu'il se propose de contourner par l'ouest et la route sud. Le mauvais temps l'empêche de faire escale en Tasmanie, à Hobart, mais il arrive sans encombre le 27 juin 1825 en vue de la superbe baie de Sydney qu'il a déjà visitée 23 ans plus tôt avec Baudin. Il va séjourner là avec ses équipages près de 3 mois. Une fois de plus, Hyacinthe de Bougainville est ébloui par le rapide développement de cette colonie que Matthew Flinders a fini par baptiser Australie, au terme de sa circumnavigation de l'île-continent qu'il a accomplie en 1803-1804 avec son ami le docteur Bass et son fameux chat Trim. Hyacinthe note: ce pays qui n'était en 1802 qu'un lieu d'exil et de déportation, peuplé uniquement de condamnés et de proscrits, est désormais au premier rang des colonies les plus importantes, aspirant à se gouverner elle-même. Très bien reçu par le gouverneur, Sir Thomas Brisbane, excellent astronome et correspondant de l'Institut de France, Hyacinthe se documente très solidement sur le pays, ses ressources, son peuplement et son économie naissante. Il ne cache pas, avec une grande lucidité, son admiration pour l'administration britannique. Je cite « la nation qui possède au plus haut degré la science de la colonisation ». Et il en démontre les mécanismes, l'esprit de suite et de prévoyance, une vision globale de l'organisation d'une société, secondée par les habitudes cosmopolites, et leur facilité à étendre leur activité de commerce. Bougainville analyse les différentes populations, herborise, visite la Outback, les aborigènes, s'extasie sur leur habileté à manier le boomerang, mais les trouve laids, malingres et repoussants. Reçu partout avec égard, il observe surtout la population européenne, visite des élevages, des fermes, souvent menées par d'anciens bagnards, mais aussi par des familles d'émigrants libres venus chercher une vie meilleure en ces terres lointaines. Il côtoie des administrateurs, des militaires. Il trouve la presse locale très brouilleuse de cartes, la voirie urbaine insuffisante, à la moindre pluie, on patauge dans un bourbier, dit-il. Les voies tracées sont larges mais peu pavées. Sydney, en 1825, compte environ 35 000 habitants. C'est la seule vraie ville de la Nouvelle-Galles du Sud. L'habitat est en général, note-t-il, de qualité médiocre, mis à part quelques édifices publics et un petit quartier résidentiel. Il signale le nombre élevé de cabarets, l'insécurité nocturne, les ravages de l'alcoolisme, les enfants abandonnés. Dans les grands domaines agricoles où le mouton est déjà roi, les bagnards sont soumis à une rude discipline. L'Australie croit à la rédemption par le travail qu'elle pratique d'ailleurs encore de nos jours. Il signale enfin, comme à Singapour, la faiblesse de la protection armée, à peine 700 hommes, aucun bâtiment de guerre, ce qu'il trouve fort imprudent. La Tétis et l'Espérance quittinaient le 21 septembre, faisant route plein est sur Valparaiso. Hyacinthe observe une dernière fois la Nouvelle-Galles du Sud est le chef-d'œuvre de l'esprit de colonisation et tout peuple civilisé doit tendre à imiter un si bel édifice. La circumnavigation s'achève à Brest le 26 juin 1826 après un contournement du Horn un peu mouvementé et une brève relâche à Rio pour faire des vivres et de l'eau douce. Sur le plan économique et commercial, le périple est sans effet. Bien reçu partout, qu'il s'agisse des Britanniques, des Espagnols ou des Portugais, des Hollandais, des princes locaux, Bougainville sait que la France arrive trop tard. Le premier empire a scellé la suprématie maritime et ultramarine de l'Angleterre. Les places sont prises. L'Australie ne sera pas française, il faudra faire avec. L'enrichissement fabuleux du Royaume-Uni commence à ce moment avec un sens du trading and transit très efficace, remarquablement décrit par Bougainville. Cette fin de décennie, mais aussi le début de l'envol du commerce de l'opium. Le commerce officiel, celui des fermes, passe de 1040 tonnes achetées en 1824 à plus de 30 000 tonnes en 1835. Les groupes Jardine, Matheson, Dent, Russell, Sassoon bâtissent d'inimaginables fortunes, sans compter, évidemment, la contrebande. Sur le plan diplomatique, le résultat n'est pas convaincant. Tous ces gens, bien installés sous les tropiques, ont juste vu deux frégates battant pavillon français et quelques courtois officiers, rien de plus. Il faudra attendre plus d'un demi-siècle que la France, sujette à ses tribulations internes 1830, 1848, 1852, 1870, puisse prétendre à un rôle colonial d'envergure dans cette zone géographique. Mais Hyacinthe, qui continuera une brillante carrière de marin jusqu'en 1846, a rapporté de son périple une masse considérable d'observations et de renseignements de tous ordres, lesquels s'avéreront fort utiles pour les expéditions futures. On ne peut qu'admirer la finesse de ses remarques, leur modernité et son ouverture d'esprit. Ses observations, les courts tableaux de mœurs de ses carnets, brossés il y a presque 200 ans, les habitudes, les paysages, les caractères, les trafics, restent d'actualité, dépeints avec justesse et talent, ce qui laisse à penser que nature et peuple ont d'indélébiles caractères, lesquels passent à travers le temps. Cette communication est enrichie des travaux d'Étienne Taimit, membre de l'Académie de marine, et de Paul Butel. Les carnets de voyage de Hyacinthe de Bougainville ont été consultés en français à la bibliothèque historique de la National Library de Singapour. Le musée maritime de Macao garde aussi une trace du bref passage de la Tétis. Enfin, une édition du National Museum de Singapour, Prints and Paintings in Singapore through the 19th Century, livre de précieux renseignements sur l'escale des deux frégates françaises et le travail d'Edmond de la Toine.